أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
اللہ تعالیٰ کے فضل سے
Par la grâce de Dieu, vendredi prochain débute la Jalsa Salana de la Jamaat du Royaume-Uni, Inch'Allah. Depuis quelques semaines, les bénévoles sont en train de travailler à Hadiqatul Mahdi pour les préparatifs de la Jalsa Salana. Et depuis la semaine dernière, depuis les 10 derniers jours, les membres de la Khuddam ou l'Ahmadiyya ainsi que les autres bénévoles sont à pied d'œuvre là-bas. Il n'est pas aisé de mettre en place toute l'infrastructure de la Jalsa au plein milieu d'une forêt. Les Khuddam et les bénévoles venus des quatre coins du Royaume-Uni font preuve d'un grand savoir-faire, un savoir-faire que nous ne voyons nulle part ailleurs, un savoir-faire que nous ne voyons dans aucune autre organisation. La passion qu'Allah a insufflée en ces jeunes après qu'ils aient prêté allégeance au Messie promis l'Islam est en soi une grande faveur divine. Ces jeunes ne se soucient ni de la chaleur, du soleil, ni de la pluie. Ces jeunes sont là pour servir en toute abnégation lors de la Jalsa Salana organisée par le Messie promis alayhi salam. D'ailleurs, des milliers d'autres volontaires vont se présenter durant les autres jours de la Jalsa Salana afin de servir les invités et afin de faire tourner l'organisation de la Jalsa Salana. D'ailleurs, après la Jalsa Salana, il y a beaucoup à faire pour ramasser tout le matériel et pour tout mettre à l'abri. Parmi ces bénévoles, il y aura, Inch'Allah, des hommes, des femmes, il y aura des jeunes hommes, il y aura des jeunes filles, il y aura aussi des enfants et des vieux. C'est là une passion extraordinaire à servir les invités du Messie promis l'Islam que nous ne voyons aujourd'hui que dans la Jamaat du Messie promis l'Islam. C'est une passion que nous ne voyons nulle part ailleurs. En ce monde occidental, généralement, tout le monde ne se soucie que de l'acquisition des biens de ce monde. C'est là la première priorité de tout le monde qui vit ici en Occident. Or, dans ce milieu, les jeunes Ahmadis sont en train d'offrir leur service en toute humilité et volontairement. Il nous incombe de prier constamment pour ces bénévoles, qu'Allah leur donne la possibilité de rendre de meilleurs services et qu'Allah les protège de tout mal, de tout souci et de toute souffrance. À l'endroit des bénévoles, j'évoquerai certains faits concernant l'hospitalité, comme à l'accoutumée, et parce que cela est aussi important. Comme je l'ai dit auparavant, il n'y a point de doute que tous les bénévoles font de leur mieux pour servir les invités du Messie promis à l'Islam. Or, il y a aussi des nouveaux venus parmi ces bénévoles. Il y a aussi des enfants qui viennent servir pour la première fois. Et il est aussi important de faire des rappels pour les anciens bénévoles, des rappels concernant l'hospitalité, des rappels à la lumière des enseignements de l'Islam, des rappels à la lumière de l'exemple du saint prophète Mohammed paix soit sur lui et de la conduite et des conseils du Messie promis à l'Islam, le serviteur parfait du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est important de répéter ces paroles afin que nous puissions offrir le meilleur service à nos invités. Dans le Saint-Coran, Allah a évoqué l'importance de l'hospitalité en citant la conduite du prophète Abraham, paix soit sur lui, sa conduite à l'égard de ses invités. Quand ses invités frappèrent à sa porte, la première chose qu'il a faite était de les accueillir à bras ouverts, de leur offrir la salutation de paix. Et il prépara immédiatement pour eux un repas. Dieu évoque aussi les soucis qu'avait le prophète Lot à l'égard de ses invités. Il avait peur que son peuple ne tourmente ses invités. Il avait peur pour la protection de ses invités. Ainsi donc, on doit se soucier du confort de ses invités. On doit se soucier du confort des invités car la souffrance de l'invité peut être la cause de l'humiliation de l'hôte. Voilà la leçon que nous devons tirer de ces exemples. La souffrance de l'invité n'est pas chose ordinaire. La souffrance de l'invité n'est pas quelque chose que l'on peut mettre de côté. La moindre souffrance que subit l'invité pourra être la cause d'embarrassement et d'humiliation pour l'hôte. Et c'est pour cette raison que l'islam a mis beaucoup d'emphase sur le respect et l'honneur de l'invité. Khadija radhiyallahu anha, l'épouse du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, avait vu en lui d'innombrables qualités extraordinaires, des qualités qu'elle avait mentionnées lorsque le saint prophète paix soit sur lui était troublé après avoir reçu ses premières révélations. Elle avait dit au saint prophète Mohammed paix soit sur lui qu'Allah ne laissera pas partir la perdition le saint prophète paix soit sur lui en raison de ses nobles qualités. Et parmi les qualités qu'elle avait évoquées, elle avait dit que Dieu ne vous laissera pas partir à la perdition en raison de votre sens de l'hospitalité, sens de l'hospitalité qui avait atteint son comble. De surcroît, au cours de la vie du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, nous ne voyons pas un exemple, deux exemples ou une dizaine d'exemples. Au contraire, il y a des centaines d'exemples qui prouvent l'hospitalité, hors pair du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, une hospitalité qui atteignit les sommités. D'ailleurs, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a enseigné ses principes à ses compagnons ainsi qu'à sa Umma. Des exemples étonnants des compagnons du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, prouvent leur sens de sacrifice et leur grand sens de l'hospitalité, et la manière dont Dieu a béni leur service à l'égard de leurs invités. Quand le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, recevait un nombre important d'invités, eh bien, il distribuait ses invités parmi ses compagnons, et il prenait quelques-uns de ses invités, et il s'occupait personnellement de ces derniers. Une occasion pareille se présenta au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et il prit quelques invités parce qu'il y avait un grand nombre d'invités qui étaient venus. Abdullah bin Torfa, un des compagnons du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, relate qu'il fut un jour l'invité du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Abdullah bin Torfa raconte : le saint prophète nous amena chez lui. Et il demanda à son épouse Aïcha radhiyallahu anha s'il y avait de quoi à manger. Celle-ci répondit qu'il y avait du potage, un potage qu'elle avait préparé pour le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, le saint prophète qui avait ce jour-là jeûné, et ce maigre repas était pour son dîner, pour qu'il puisse rompre son jeûne. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, demanda à Aïcha radhiyallahu anha de servir le dîner. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, mit un peu dans la bouche, peut-être que ce n'était qu'une bouchée, et il demanda à ses invités d'en manger au nom d'Allah. Abdullah bin Torfa raconte: nous en mangeâmes sans rien voir et nous étions tous rassasiés. Ensuite, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demanda s'il y avait quelque chose à boire. Et on apporta une boisson, il en but quelques gorgées et demanda à ses invités d'en boire au nom d'Allah. Et ses invités en burent sans rien voir et ils dirent qu'ils avaient bu à satiété. Voilà donc le sens de l'hospitalité du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, ne mit pas cette bouchée dans sa bouche pour en manger. Il l'avait mis tout simplement pour prier et pour bénir ce repas, afin que ce repas soit suffisant pour tous. Et ce repas fut béni, et ce repas fut suffisant pour tous ses invités. Il y a des douzaines de récits qui relatent comment le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a nourri à satiété plusieurs personnes avec un peu de repas et comment il avait prié en ce sens et comment ce repas a été béni. Certains invités, quant à eux, créent des situations difficiles pour leur hôte. Des situations qui poussent à bout leur hôte. Or, même en pareille situation, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, montra un grand exemple. Un invité passa la nuit chez le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, en raison de troubles intestinaux ou par méchanceté. Et en toute connaissance de cause, cet invité a sali le couchage que lui avait offert le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Et il partit le matin sans rien dire. Au lieu de le critiquer, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, lava en personne son lit. Ainsi, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous montra, par son exemple, jusqu'à quel point s'acquitter de ses devoirs envers ses invités. En conséquence, nous voyons dans la vie de ses compagnons leur sens de sacrifice à l'égard de leurs invités. Il y a un autre récit exemplaire. À chaque fois que nous lisons ce récit, nous en tirons grand plaisir. Il y avait un compagnon qui avait accueilli chez lui l'invité du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et il avait fait dormir ses enfants sans rien leur donner à manger, et il n'avait rien mangé lui-même, mais il ne l'a pas laissé savoir à son invité. Cet Ansari, ce compagnon de Médine, a dit: le saint prophète Mohammed paix soit sur lui m'a confié un invité. J'ai demandé à mon épouse s'il y avait quelque chose à manger. Elle m'a dit qu'il y avait un maigre repas qui était pour les enfants. Et ils se sont dit qu'ils vont endormir leurs enfants sans rien leur donner à manger, et qu'on va présenter le repas à un invité, et que l'on va éteindre la lampe pour quelque raison. Et il en fut ainsi. Ils présentèrent le repas à l'invité, et ils éteignirent la lampe. L'épouse éteignit la lampe. Et ils se sont dit qu'ils vont faire semblant de manger avec l'invité dans l'obscurité. Parce que si nous n'agissons pas ainsi, peut-être que l'invité ne va pas manger parce qu'il y avait très peu à manger. En tout cas, ils ont suivi leur plan et ils ont pu nourrir à satiété leur invité. Le lendemain, lorsque cet Ansari s'est présenté au saint prophète Mohammed paix soit sur lui, le saint prophète a souri. Il a déclaré que ce que tu as fait hier soir pour nourrir ton invité a plu à Dieu, et lui-même il en a ri. Cette hospitalité avait plu tellement à Dieu qu'il en a informé le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Ce compagnon avait préféré son invité à lui-même, à sa personne et à ses enfants. Certainement, pareilles personnes vont mériter le plaisir de Dieu et vont recevoir les faveurs d'ici-bas et dans l'au-delà. Les compagnons étaient imbus d'une telle passion en raison de l'exemple du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, parce qu'ils avaient vu l'exemple du saint prophète paix soit sur lui, parce qu'ils avaient suivi ses injonctions. Dans un autre récit, il est dit que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré que la personne qui croit en Dieu et au jour dernier doit dire de bonnes paroles ou doit maintenir le silence. La personne qui croit en Dieu et au jour dernier doit aussi honorer son voisin. La personne qui croit en Dieu et au jour dernier doit honorer son invité. Voilà la norme que doit atteindre le croyant. Lorsqu'on va parachever sa foi, l'on va mériter le plaisir de Dieu. Et lorsqu'on va mériter le plaisir de Dieu, c'est là que l'on va mériter les faveurs d'ici-bas et dans l'au-delà. Quand le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam confiait des invités à ses compagnons, il demandait à ses invités comment est-ce qu'ils ont été traités par leur hôte. Il est dit dans un récit qu'une délégation de la tribu Abdul Qais se présenta au saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et le saint prophète Mohammed paix soit sur lui demanda aux musulmans de Médine, les Ansars, de s'occuper de ses invités. Les Ansars prirent avec eux ses invités, et le matin, lorsque ses invités se présentèrent à lui, le saint prophète, paix soit sur lui, leur demanda: « Comment vos hôtes se sont occupés de vous la nuit ?» Ils ont dit: « Ô envoyé d'Allah, ce sont de nobles gens. Ils nous ont offert des couchages confortables. Ils se sont souciés de notre confort. Ils nous ont préparé des repas succulents. Et ils nous ont présenté les enseignements du livre de Dieu et de la sunna du prophète. Lors de leur rencontre, ils ont évoqué Allah et son prophète, paix soit sur lui. Voilà donc les devoirs des hôtes. Ceux qui reçoivent chez eux les invités ne doivent pas passer la nuit à parler de tout et de rien, à parler de choses futiles. Ils doivent passer leur temps dans le souvenir de Dieu et de son prophète, paix soit sur lui. Ils doivent parler de bonnes choses. Et ils doivent aussi enseigner de bonnes choses aux autres. Parmi ces invités, il y a des jeunes, il y a des enfants. Et lors de nos jalsa, en sus des Ahmadis, il y a aussi des étrangers qui viennent en grand nombre. Et ils logent dans différents endroits et partout nous avons des équipes qui s'occupent de leur hospitalité. Les membres de ces équipes ou ces bénévoles doivent, lorsqu'ils sont en train de servir ces invités étrangers, être des exemples pour ces derniers, afin que ces derniers comprennent qu'ils participent dans une rencontre spirituelle et non dans une rencontre mondaine. Ces bénévoles doivent être de grands exemples de moralité. Lorsqu'ils sont libres à n'importe quel instant de la nuit ou de la journée, eh bien, au lieu de parler de tout et de rien, ils doivent parler de la religion, de la foi. Cela a de l'effet aussi sur les invités. Et ils vont comprendre que durant ces jours, ces gens se sont détournés entièrement de ce monde et ces gens se sont réunis uniquement pour la cause d'Allah. Et c'est pour cette raison qu'ils sont en train de servir Dieu. Et grâce à cela, ils vont aussi enseigner les préceptes de la foi à leurs invités. Ainsi, ce sera une forme de tablir de la part des bénévoles et ce sera une forme de tarbiya aussi de leur part. Un tablir et une tarbiya pour les jeunes et pour les enfants. La Jamaat Ahmadiyya a un grand voyage à accomplir. Les compagnons du Saint-Prophète, Mohammed bin Sosa, lui, ont compris cela et ils se sont acquittés de leur devoir d'hôte. Et j'ai cité l'exemple de cette délégation qui a reçu le meilleur traitement de la part de ces musulmans qui leur ont offert les meilleurs repas qu'ils avaient. Et ils se sont aussi souciés de leurs besoins spirituels, de leurs besoins intellectuels, des besoins qui avaient trait à la foi, afin que lorsqu'ils retournent chez eux, ces invités puissent faire la tarbiya de l'approche de la meilleure façon et afin qu'ils puissent de la meilleure façon transmettre aux gens de leur région le message de l'islam. Nous avons dans notre organisation un département de tarbiya, de réforme morale et spirituelle et une équipe de tablir. Il y a plusieurs sessions qu'on organise pendant la nuit avec les gens de différentes nationalités. Ainsi, il incombe aux bénévoles d'offrir cette nourriture spirituelle aux étrangers ainsi qu'aux Ahmadis. Et il faut le faire de la meilleure façon possible. Ainsi, les bénévoles doivent toujours avoir cela en tête. Ils doivent se souvenir que leur exemple personnel ainsi que leurs paroles et leurs propos font partie de l'hospitalité. Leur but n'est pas là pour servir les invités uniquement, ils doivent être vigilants à cet égard durant ces jours. À notre époque, c'est le Messie premier d'Islam, le serviteur parfait du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, qui nous a montré comment servir ses invités. C'est lui qui nous a éduqués à cet égard et je vais vous présenter quelques exemples à ce propos. Il y a un récit concernant le fait d'honorer ses invités. Il y avait un invité qui est venu à Qadian, un invité qui avait prêté allégeance aux mains du Messie premier d'Islam. Il était un disciple du Messie premier d'Islam. Et en raison du fait qu'il était un disciple du Messie premier d'Islam, il a voulu masser les pieds du Messie promis à l'Islam. Et c'est là qu'un ami hindou a frappé à la porte ou à la fenêtre de la chambre. Le compagnon du Messie promis à l'Islam a dit que je me suis levé pour ouvrir la fenêtre, Mais le Messie premier, al-Islam, s'est levé avant moi rapidement et il a ouvert la porte et m'a dit, « Vous êtes notre invité. » Et le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a déclaré qu'il faut respecter son invité, qu'il faut honorer son invité. Ici, nous voyons deux situations. Tout d'abord, le fait que l'autre était le disciple du Messie premier, al-Islam, et il a eu le désir de masser les pieds du Messie premier, al-Islam, et celui-ci lui a donné la permission. Mais il était aussi l'invité du Messie premier, al-Islam, et le Messie premier, al-Islam, quant à lui, a suivi l'ordre de son maître, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et il a honoré l'invité, et il a aussi ouvert la porte à celui qui a frappé à la porte. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib relate un autre incident. Il déclare qu'il y avait un Ahmadi qui s'appelait Seti Ghulam Nabi Sahib, qui était un Ahmadi très affable et qui était pauvre. Cet Ahmadi a rapporté à Mirza Bashir Ahmad Sahib qu'un jour je suis venu rencontrer le Messie premier al-Islam à Qadian. Il faisait froid, c'était l'hiver et il pleuvait. Je suis arrivé à Qadian dans la soirée. La nuit, lorsque j'ai terminé mon dîner, lorsque c'était en plein milieu de la nuit, quelqu'un a frappé à ma porte. J'ai ouvert la porte et j'ai vu le Messie promis, al-Islam, qui était là devant moi. Il avait dans la main un verre de lait chaud et dans l'autre main, il y avait une lanterne. J'étais fort troublé en voyant le Messie promis, al-Islam, mais celui-ci m'a dit, « Quelqu'un a envoyé du lait. » Et je me suis dit que je devrais vous en offrir. Prenez de ce lait. Peut-être que vous avez l'habitude d'en boire la nuit. Seti Sahib disait que j'avais des larmes aux yeux. Subhanallah, voyez la courtoisie du Messie premier al-Islam. Le prophète de Dieu, le Messie, est là pour servir ses disciples et il en tire un grand plaisir et il se met lui-même en difficulté. Le Messie premier al-Islam faisait préparer des repas spéciaux pour des invités en raison de leur origine et en raison de leur goût personnel. Mais c'est vrai aussi qu'il faisait préparer un seul repas au cours de la Jalsa Salana afin qu'il n'y ait pas de difficultés, afin que tout le monde puisse avoir un repas. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, la Jamaat du Messie premier al-Islam est très bien organisé et très bien entraîné. Nous avons assez de bénévoles, nous avons les moyens et nous pouvons aussi mettre sur pied facilement en de grandes structures à de grandes échelles. C'est pour cette raison qu'au cours de la Jalsa Salana, il y a une cuisine générale et il y a aussi des repas que l'on prépare pour des invités non-Ahmadis, pour des gens de certaines régions et pour les malades. Et il n'y a pas de difficulté pour nous à préparer de tels repas. Cela ne doit pas être difficile. Il y a certains qui, sans aucune raison, critiquent ces faits et qui posent des questions à ce propos, à savoir pourquoi préparer des repas pour d'autres personnes. Ces gens doivent faire preuve d'un plus grand cœur au cours de ces jours. Certes, on doit aussi présenter aux invités du Tabshir ces repas que l'on présente à tout le monde durant la Jalsa afin de leur faire connaître ce que mangent les gens en général au cours de la Jalsa Salana. Et d'aucuns parmi ces invités du Tabshir mangent ces repas de gaieté de cœur. Ce qui est important, c'est de ne pas faire preuve d'étalage. Auparavant, on ne pouvait pas le faire, mais aujourd'hui, on peut organiser tout cela et honorer ces invités signifie que l'on doit préparer un repas spécial pour les invités de l'extérieur, les invités étrangers. Lorsqu'il y avait la Jalsa Salana Arabwa, il y avait une cuisine pour les malades. On préparait un repas pour les invités étrangers. Il n'y a pas de mal à le faire ici aussi si on arrive à le faire. Mais généralement, les Ahmadis doivent manger ce qui est préparé pour tout le monde. Et les responsables aussi, les bénévoles aussi, doivent manger de la cuisine générale. À moins que quelqu'un soit souffrant ou à moins que quelqu'un est en train de travailler ou accompagner un invité particulier, il doit manger avec cet invité, mais généralement, chacun doit être un exemple et doit manger le repas qui est préparé pour tout le monde en général. Les responsables aussi doivent en faire de même. Le Messie promis à l'Islam a apprécié le fait que l'on ne fasse pas de formalité, qu'il n'y ait pas de formalité ou d'étalage. Et il a aussi apprécié le fait que l'on accorde un traitement particulier à certains invités particuliers. À une occasion, à l'époque du Messie promis l'Islam, on n'avait pas offert de repas à certains invités. Ces invités n'avaient pas reçu de repas approprié. C'était là une erreur de la part des responsables et ils ont négligé ces invités. Dieu a informé le Messie promis l'Islam à propos de cet incident, à savoir que l'on avait négligé certains invités. Et il a déclaré, Dieu m'a informé la nuit, que pendant la nuit, on a fait preuve d'ostentation dans la cuisine. On ne s'est pas bien occupé de certains invités. On a offert un repas à certains invités et pas à d'autres. On n'a pas servi tous les invités de la même manière. C'est pour cette raison que pour 6 mois, il a limogé les responsables de la cuisine. En dépit de son indulgence, eh bien, le Messie promis à l'Islam n'endurait pas le fait que l'on fasse preuve d'ostentation à l'égard de certains invités ou qu'il y ait des manquements à cet égard. Et il a puni les responsables et il a pris entre ses mains les rênes de la cuisine. Ainsi, les responsables du département de l'hospitalité doivent être très vigilants. Il faut faire en sorte que personne ne souffre. Ainsi donc, le département de l'hospitalité est un département très important de la Jalsa Salana. Le fait que les tâches de ce département débutent à l'heure et se déroulent bien a un impact positif sur les autres départements. L'hospitalité ne concerne pas uniquement la cuisine ou le fait de servir les invités. Cela concerne la cuisine, cela concerne certes le service des invités, cela concerne aussi le stockage et l'approvisionnement. S'il y a des retards dans l'approvisionnement, eh bien, les repas seront préparés en retard. On ne pourra pas offrir les repas à l'heure et les programmes de la Jalsa ne vont pas débuter à l'heure. Dans le département de l'hospitalité, où il y a aussi le département des logements, le fait d'offrir des couchages aux invités qui sont sous la responsabilité de la Jamaat. Cela concerne aussi la propreté en général et la propreté des toilettes. Cela concerne aussi le stationnement et le fait d'organiser le stationnement des voitures. S'il y a des difficultés à ce propos, s'il n'y a pas de discipline dans ce département, eh bien, les invités vont faire face à des difficultés. Et cela va affecter aussi le programme de la Jalsa Salana. Et s'il y a la pluie, eh bien, le département de l'hospitalité doit prendre des mesures pour faciliter le passage des invités. Et ce département doit aussi offrir des voiturettes pour les malades et les handicapés. Et on a aussi pris un aire de stationnement pour les invités qui se trouvent environ une vingtaine de minutes de la Jalsa Salana. On doit aussi offrir des navettes donc entre ces deux lieux et cela fait partie de l'hospitalité. Ainsi donc, il y a différents départements qui travaillent sous les départements de l'hospitalité. Ici, ce département tourne à merveille, eh bien les autres départements vont tourner à merveille automatiquement. Le département de l'hospitalité concerne aussi les soins médicaux à offrir aux invités. Ainsi, 80% ou plus de 80% des tâches de la Jalsa Salana concernent directement les invités et l'hospitalité. Ainsi, tous les bénévoles doivent comprendre que le département de l'hospitalité ne concerne pas uniquement ceux qui sont en train de porter le badge de l'hospitalité. Tout département a trait à l'hospitalité. Et chaque bénévole doit offrir ses facilités à ses invités, doit honorer ses invités et doit les protéger de toute souffrance. C'est là une tâche qui incombe à tout bénévole. Qu'Allah fasse que tout bénévole puisse s'acquitter au mieux de ses responsabilités. Et qu'Allah fasse que la Jalsa soit bénie. Aujourd'hui, nous sommes aussi le 14 août, le jour de l'indépendance du Pakistan. Je vous demande de prier en ce sens. Qu'Allah fasse que le Pakistan puisse trouver une vraie indépendance et que le Pakistan soit à l'abri des leaders égoïstes et des leaders religieux égoïstes. Qu'Allah accorde aussi perspicacité et sagesse à la population afin qu'elle puisse choisir de tels leaders qui vont s'acquitter de leur charge en toute honnêteté. Qu'Allah fasse qu'ils comprennent tous que le salut de ce pays et la garantie contre ces malheurs se trouvent dans la justice et se trouvent dans le respect de ses devoirs à l'égard d'autrui. Le salut de ce pays se trouve dans le fait que l'on mette fin aux atrocités. Le salut de ce pays se trouve dans le fait que l'on se tourne vers Dieu. Ces leaders prennent le nom de Dieu et disent que nous sommes en train d'agir au nom de Dieu, mais ils sont en train de commettre des exactions au nom de Dieu, qui est le Rabbul Aramin, qui est le Rahman Irrahim. Ils sont en train de commettre ces atrocités au nom de Dieu et de son prophète, qui est une miséricorde pour l'humanité. Les Ahmadis ont joué un grand rôle dans la construction de ce pays. Ils ont consenti à des sacrifices. On est en train de commettre des atrocités à l'encontre des Ahmadis. Mais en tout cas, les Ahmadis pakistanais, là où ils se trouvent, seront toujours fidèles envers leur pays et on doit prier en ce sens. Qu'Allah protège ce pays et qu'Allah libère ce pays des injustes et des égoïstes. Les ennemis de ce pays ne se trouvent pas à l'extérieur, mais se trouvent à l'intérieur. Ce pays est en danger de ses ennemis de l'intérieur, de ses leaders égoïstes et de ses oulémas égoïstes. Si ces gens gèrent ce pays en craignant Dieu, eh bien, aucune force externe ne pourra toucher ce pays. En tout cas, les Ahmadis pakistanais doivent prier pour leur pays. Ils doivent prier pour qu'Allah protège les Ahmadis pakistanais pour qu'ils puissent leur accorder la vraie liberté et que ce pays puisse continuer à exister. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de plusieurs personnes. Je vais diriger la prière funéraire de Kamal Aftab Saheb, fils de Rafiq Aftab Saheb de Huddersfield, du Royaume-Uni. Il a rendu l'âme le 7 août dernier à l'hôpital de Leeds, ici au Royaume-Uni. Il était atteint de leucémie et il est décédé à l'âge de 33 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt a pu servir la Jamaat en plusieurs qualités. Au moment de son décès, il était le caïd régional de la Houda Moul Ahmadiyya du Yorkshire et secrétaire tarbiya de la Jamaat de Huddersfield South. Lors de son séjour à l'hôpital, durant ses derniers jours, il avait de sa chambre d'hôpital lancé une campagne pour récolter 50 000 livres sterling pour la recherche sur la leucémie. Jusqu'à son dernier souffle, il s'occupait en toute abnégation de plusieurs projets dans le domaine de l'humanitaire et de tablir. Il était d'une grande sincérité et fidélité à l'égard du califat. En dépit de sa maladie et de sa faiblesse, il a suivi de sa chambre d'hôpital mon discours en direct lors de l'ijtema de la Houda Moul Ahmadiyya du Royaume-Uni. Un journal national leur gardienne, lui a décerné le prix de bénévole de l'année 2014. Kamal Aftab, le défunt, est venu me rencontrer quelques jours avant son décès. En dépit de sa situation très critique, il a fait preuve d'un grand courage et il était de bonne humeur. Il ne laissait pas entrevoir qu'il souffrait, en dépit du fait qu'il souffrait beaucoup durant ces moments. Il faisait preuve d'une grande sincérité à l'égard du califat, comme il l'a toujours fait. Son frère Farouk Aftab relate que le défunt était l'arrière-petit-fils de Hazrat Sayyid Ala Deta, un compagnon du Messie premier al-Islam. En 1953 et en 1974, lors des troubles anti-Ahmadi, on lança plusieurs attaques contre la maison du grand-père du défunt, Jamaluddin Saheb. Celui-ci a été emprisonné pour 6 mois. Kamal Aftab, le défunt, était très amical, très aimable, très patient. Il était toujours prêt à sévir les autres, à aider les autres. Les Ahmadis et les non-Ahmadis sont tous pleins d'éloges à son égard. Et tout le monde n'a fait que ses éloges. Il était apprécié de tous, grands et petits. Il était l'ami de tous. Il servait ses parents et se souciait de ses frères et sœurs. Le défunt était régulier dans ses prières et il était toujours prêt à servir l'humanité. Il était le leader du projet de Humanity First, Gift of Sight. Il travaillait sur l'ouverture d'une clinique ophtalmologique en Afrique de l'Ouest. Kamal Aftab était aussi un Aïn Allah très actif. Il profitait de chaque occasion pour prêcher le message de l'islam de l'Ahmadiyya. Lors de son séjour à l'hôpital, il présenta la Jamaat aux médecins et à ses soignants. Il m'a dit qu'il laissait allumer la MTA sur satellite dans sa chambre d'hôpital et suivait les émissions. Et il profitait de ces émissions pour prêcher le message de l'islam et de l'Ahmadiyya aux autres. Il était un membre actif de la Majlis Ansar Sultanul Kalam. Il a participé à plus de 100 interviews à la radio et à la télé et a transmis ainsi le message de l'islam à plusieurs centaines de milliers de personnes. Monsieur Youssouf, son frère, relate que le défunt tentait toujours, grâce à ses contacts personnels, de rapprocher de la Jamaat les Khuddam et les Atfal, qui étaient peu actifs. Il tentait d'insuffler dans leur cœur l'amour pour le califat. Il accompagnait souvent les Khuddam à Londres. Il faisait prier à la mosquée Fazal afin qu'ils renforcent leur relation avec le califat. Et il encourageait les Khuddam en général et les membres de l'Amla en particulier à accomplir leurs prières. Il faisait aussi des efforts en ce sens. Il prenait les Khuddam de chez eux pour la prière de Fajr. Le docteur Hafiz Saheb relate que le défunt Aftab Saheb lui informa à propos de sa maladie, et lorsqu'il a su à propos de sa maladie, le défunt a dit qu'il se soumettrait au décret de Dieu et qu'il n'avait aucun souci à ce propos. Son seul souci lorsqu'il a su à propos de sa maladie était de mettre en ligne des interviews réalisées par Humanity First sur l'aide apportée aux sinistrés après le séisme du Népal. Il désirait mettre en ligne ces interviews afin que le monde sache à propos des services rendus à l'humanité par la Jamaat. Le médecin disait que son état lui causait de grandes souffrances. Mais Kamal Aftab était toujours souriant. Il profitait de chaque occasion à l'hôpital pour prêcher le message de l'islam et de l'Ahmadiyya. Car, disait-il, le Messie promet l'islam. Lui-même voulait apprendre l'anglais pour prêcher le message de l'islam et de l'Ahmadiyya. Le responsable de notre département presse, Abid Wahid, relate que Kamal Aftab a établi pour nous de nouveaux contacts dans le monde des médias, en sus de ses autres services qu'il rendait à la Jamaat. En dépit de sa maladie, de son lit d'hôpital, il invitait pour la Jalsa, par téléphone et par email, des journalistes. Il nous téléphonait souvent pour nous demander à propos des travaux d'un membre de notre équipe, M. Adam Walker. Et si Kamal Aftab constatait qu'il y avait des lacunes, tout ému, il nous parlait de l'importance de notre travail. Pendant la Jalsa, en dépit de son manque de sommeil, lorsqu'il venait au bureau nous rencontrer, il était toujours le plus frais d'entre nous. Et sa positivité et son attitude avaient un effet positif sur nous. Il établissait des contacts facilement, sans aucune formalité, sans hésiter, sans aucune crainte. M. Abid Wahid ajoute qu'à travers son décès, Kamal Aftab a fait connaître le message de l'islam aux autres à travers les médias. La BBC a été vue et Belfast Telegraph ont publié des articles à propos de son décès. De grandes personnalités lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux et ont loué les œuvres de la Jamaat. Hethel Clark, une journaliste de l'ITV, a déclaré que les mots ne doivent pas me manquer en tant que journaliste. Or, je suis fort triste après le décès de Kamal Aftab. De bonnes personnes sont en train de quitter le monde prématurément. Nous devons maintenir vivant son nom et ses œuvres. Et la directrice de ITV News de Yorkshire, Mme Margaret, a déclaré que Kamal Aftab était d'une grande amabilité. En le voyant, on dirait qu'il avait vécu une vie pleine de joie. Nous allons lui rendre hommage sur notre chaîne de télé. Le président de la Jamaat de Huddersfield écrit que le défunt avait un amour fou pour la Jamaat et le califat, un amour qui nous faisait envier. Il était très régulier dans ses prières, en particulier la prière de Fajr. Il était passionné des services humanitaires. Et s'il était en retard pour ses rapports, et quand je lui demandais à ce propos, il s'excusait auprès de moi immédiatement. Les invités, l'on Ahmadi, présents pour la marche de charité, n'avaient pas tari d'éloges à l'égard du défunt. Tous affirment qu'il prêchait ardemment le message de l'islam de l'Ahmadiyya et qu'il profitait de chaque occasion pour le faire. M. Mohamed Ali de Hartlepool affirme qu'ils eurent l'occasion de partir en Irlande en décembre dernier pour servir la Jamaat. Kamal Aftab était le caïd régional et Mohamed Ali était le caïd d'une majlis. Mais Kamal Aftab fit de Mohamed Ali leur chef de délégation et pendant tout le séjour, le défunt n'a jamais manqué d'honorer et d'obéir Mohamed Ali. Il était très régulier pour la prière de Tahajjud et prêchait ardemment le message de l'islam et de l'Ahmadiyya. Il avait demandé à notre missionnaire de l'Irlande, M. Ibrahim Noonan, comment prêcher le message de l'Ahmadiyya aux chrétiens. Un khadim qui était présent lors de cette tournée en Irlande a dit que Kamal Aftab nous a encouragés à lire les ouvrages du Messie promis alayhi salam et il nous a testés à propos de notre lecture. Tous les membres de la Khudamul Ahmadiyya lui ont rendu hommage. Un ancien président de la Jamaat de Huddersfield rapporte qu'il connaissait le défunt depuis sa tendre enfance. Il était différent des autres enfants. Il ne se disputait, ne se querellait avec personne. Il ne se mettait jamais en colère. Il respectait les grands depuis son enfance. Il servait comme un passionné fou la Jamaat. Et il a respecté à la lettre son engagement. Et cela n'est point une exagération. Il était un dainelala accompli. Il profitait de chaque occasion pour présenter le message de l'islam et de l'Ahmadiyya. Il présentait la littérature de la Jamaat à tous ceux qu'il côtoyait dans son travail et il les invitait pour les programmes de la Jamaat. Il avait beaucoup de contacts et avait transmis à tous son message. Un autre khadim relate que le défunt était très amène, il était toujours prêt à servir à la Jamaat. Il ne se mettait jamais de l'avant, il tirait grand plaisir à travailler en arrière-plan. Il n'a jamais voulu qu'on le loue pour ses œuvres. Il encourageait les autres à établir une relation avec Dieu. Il était très attaché au Coran et au Hadith. Il aimait beaucoup lire, notamment les ouvrages du Messie promis alayhi salam. Quand un nouveau livre était disponible en langue anglaise, il encourageait immédiatement à le lire. En somme, le défunt possédait d'innombrables qualités. Qu'Allah exalte son statut, qu'il accorde patience et persévérance et réconfort à ses vieux parents. Qu'Allah accorde aussi patience à ses proches et à ses frères et sœurs. Je vais aussi diriger la prière funéraire de Mokaram Mohamed Naïm Awan Saheb, fils de Mushtaq Awan Saheb de l'Allemagne. Le défunt était âgé de 36 ans et il s'est noyé dans le Rhin, un fleuve de l'Allemagne. Son fils de 12 ans s'est noyé lui aussi le même jour. Tous deux sont morts noyés. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Naïm Awan Saab était parti en Allemagne le 31 juillet dernier. Il résidait ici au Royaume-Uni. Il était parti en Allemagne avec son épouse et ses trois enfants pour rencontrer ses parents et pour les vacances. Le défunt se baignait avec ses enfants sur la rive sablonneuse du Rhin quand deux ferries ont traversé le fleuve. Et le passage de ces deux ferries a causé une montée soudaine de l'eau et tous les cinq membres de la famille ont été pris par le courant. L'eau les a tirés. Un Allemand qui était présent sur les lieux a pu tirer trois des leurs. Mais quand Naïm Saab a vu que son fils se noyait, il s'est avancé pour le sauver. Il était peut-être déjà dans l'eau, mais le père et le fils ont tous deux été portés par le courant. On a découvert la dépouille de Naïm Awan le même jour pendant la soirée et on a découvert la dépouille de son fils le lendemain. Molvi Mohamed Ishaq de Kossour, un compagnon du Messie Premier l'Islam, était l'arrière-grand-père maternel du défunt. Mubarak Ali Awan, martyr de Lahore, était l'oncle du défunt. Le défunt a servi la Jamaat en Allemagne en tant que caïd de la Jamaat de Usingen. Il a beaucoup travaillé pour la construction de la mosquée Baitul Huda. Il est venu s'établir au Royaume-Uni en janvier 2005 avec les membres de sa famille. Il était un membre actif de la Majlis Khudamul Ahmadiyya d'ici. Il venait régulièrement aux prières et il assurait aussi la sécurité sur les lieux de la communauté. Il participait aussi dans d'autres travaux de la Jamaat. En 2012, il a eu l'occasion d'accomplir l'Umrah. Il était très humble, très aimable et très amical. Il laisse derrière lui son épouse et deux filles, Razia Awan qui a 10 ans et Natasha Awan qui a 14 ans. Ses deux parents, trois frères et ses sœurs qui sont tous ses cadets. Farouk Aftab, le Mourtamid de la Khudamul Ahmadiyya et qui est le frère de Kamal Aftab, la première personne décédée que j'ai mentionnée, eh bien, M. Farouk Aftab déclare à propos de Mohamed Naïm Awan que je connais le défunt depuis plusieurs années. Il était d'une grande amabilité, il était toujours prêt à servir les autres. Jusqu'à récemment, il a fait face à de grandes difficultés, mais il n'a mentionné cela à personne et n'a demandé l'aide de personne. Il était un exemple. Le caïd de la Halka de la mosquée de Londres affirme que Mohamed Naïm Awan était toujours prêt à aider les autres, mais n'aimait pas être un fardeau pour les autres. Et il n'a jamais fait part de ses difficultés à personne. Le président de la Jamaat de Battenberg en Allemagne relate que nous avions organisé une rencontre le 3 août dernier avec les invités allemands. Quand je suis parti à notre centre pour voir l'avancée des travaux, eh bien j'ai vu que Naïm Awan était là-bas et il était en train de donner un coup de main. Il était venu rencontrer ses parents et ses frères et sœurs. Il était content de me rencontrer. Il m'a dit qu'il avait accompagné son frère afin qu'il puisse aider pour cette rencontre, afin qu'il fasse partie de cette rencontre. Il était toujours de service lors de la Jalsa Salana du Royaume-Uni. Un de ses amis, M. Asim, relate que Mohamed Naïm Awan prenait un mois de congé avant la Jalsa afin de participer à la mise sur pied du site de la Jalsa. Il partait là-bas tous les jours. Il travaillait d'arrache-pied et en toute honnêteté. Il était très solide et il se présentait pour tous travaux lourds. Qu'Allah exalte son statut et qu'il accorde patience et persévérance à ses proches et qu'il soit le soutien de ses filles. Amin.